Chers amis, nous ouvrons notre Bible dans le premier livre des rois, au chapitre 19, pour relire les 10 premiers versets. 1 Rois 19, les 10 premiers versets, la suite étant pour notre étude de demain matin. Je lis donc au verset 1er d'un roi 19. Le roi Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi, seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2, Jonas, chapitre 2, nous allons lire la prière qu'il adressa à Dieu depuis son sous-marin un peu spécial. Jonas, chapitre 2. Verset 1er. Jonas, chapitre 2, verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Et puis enfin, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, donc vers la fin du Nouveau Testament, au chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, après cette galerie de portraits des témoins de la foi, il nous est dit au verset 1er du chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, détournant les regards vers Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, à parfaite maturité. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté, enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Durant notre première étude d'introduction avant-hier soir, nous avons fait la connaissance d'un Élie tellement différent de celui que nous connaissons par réputation à partir d'un certain nombre de textes des Écritures. Nous avons surnommé Élie avant-hier soir le craque qui craque. Homme courageux, d'une grande piété, auquel sont confiées des missions extrêmement difficiles, risquées. Personnalité exceptionnelle, au caractère trempé comme l'acier. Et pourtant, homme soumis aux mêmes passions que nous, soumis aux mêmes misères que nous, pauvre type comme nous. Et nous en avons donc tiré deux conclusions que je vous rappelle sans les développer, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Ne nous croyons jamais trop forts. Et puis, ne nous croyons jamais trop faibles. Quand nous traversons parfois de ces vallées de profonde détresse, où tout se trouble, où tout s'en mêle, où nous perdons absolument tous nos points de repère, où nous interrogeons Dieu avec angoisse, un Dieu qui semble même sourd à notre prière. Eh bien, quand nous passons par ces vallées difficiles, ne nous croyons jamais trop faibles pour en sortir. Les interventions de Dieu dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui l'ont servi tout au long de l'histoire des Écritures, tout comme la cohorte de servantes et de serviteurs et de servantes de Dieu qui se sont succédés au fil de l'histoire de l'Église, sont là pour nous encourager dans nos découragements à ne jamais nous croire trop faibles pour en sortir. À partir de ces deux premières conclusions, nous nous sommes attachés hier soir à examiner la cause numéro un, celle qui coule de source, celle qui saute aux yeux, cause de cette dépression, de ce profond découragement du prophète Élie. Une, en tout cas, des sept causes qu'il est possible de détecter dans 1 Roi chapitre 19. Les circonstances difficiles. Et plus particulièrement, avons-nous dit, la durée et l'accumulation des difficultés. Nous avons considéré hier soir tout le contexte spirituel, social, politique, économique de la vie et du ministère de ce prophète Élie. Combien cela a été difficile. Et nous aurions pu, je le disais hier soir, comparer l'époque du ministère d'Élie à la nôtre. Et nous aurions remarqué combien il y avait de ressemblances entre notre temps et le temps du prophète Élie. Mais au-delà de ces circonstances difficiles que nous avons développées, nous avons été obligés finalement de dire que, en réalité, dans nos vies, nos circonstances difficiles sont le bouc émissaire derrière lequel nous nous réfugions pour justifier, pour excuser, voire pour alimenter nos découragements. Alors qu'il y a une cause profonde, détectable dès l'aube de ce chapitre 19, puisqu'elle apparaît dès le verset 3, Élie, voyant cela, ou encore, selon certaines versions anciennes, mais pensées complémentaires, Élie eut peur, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie voyant cela. Et nous avons donc hier passé beaucoup de temps à évoquer le décrochage du regard. Comment Satan peut réussir à détourner notre regard intérieur qui quitte la personne divine pour se fixer sur les circonstances et qui glisse ensuite depuis les circonstances vers ce moi que nous nourrissons si facilement. Nous avons vu comment le germe de la chute spirituelle d'Élie au chapitre 19 se trouve en réalité déjà dans le chapitre 18, dans le processus de la victoire, où il semble que de manière assez insidieuse, Élie ait quitté son centrage sur Dieu pour donner à sa personne une place très problématique. Donc Satan essaye toujours de nous amener à ce stade d'égocentrisme où nous nous laissons impressionner par les choses visibles, par les circonstances. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes, victimes de ces circonstances. Nous nous lamentons sur notre sort. Nous murmurons, nous nous révoltons. Et ce faisant, Nous oublions la puissance et la fidélité de Dieu dans le passé et ses promesses pour le présent et pour l'avenir. Et nous avons conclu hier soir en disant que le découragement est donc avant tout un péché de mauvaise attitude mentale devant une situation de difficulté. Sa source est dans une mauvaise direction de notre regard intérieur, centré sur moi et mes problèmes. J'ai sélectionné un extrait ici de livre dans lequel l'auteur écrit ceci. Supposons que j'ai été blessé dans mes sentiments. N'oublions pas qu'un plus grand nombre de chrétiens trébuchent sur les petites choses déplaisantes que nous appelons des sentiments blessés que sur les soi-disant grandes crises qui mettent notre âme même à l'épreuve. On m'a offensé. On ne m'a pas accordé la place que je méritais. Ou on m'a traité injustement, sans aucune considération. Mon moi a été blessé. On ne m'a pas demandé mon opinion. Par conséquent, j'ai commencé à sombrer. J'ai été vaincu, non par un monstre, mais par une simple mouche. Il s'agit cependant d'une défaite. Une écume recouvre maintenant mon esprit qui était auparavant libre et joyeux. J'ai sombré dans le soi-disant vaisseau de l'âme. Mes pas sont devenus lourds. Mon visage affiche maintenant un air malheureux et sombre. Je suis carrément vaincu. C'est à cause de l'orgueil blessé. J'ai regardé à moi-même et j'ai détourné mes yeux de Jésus. Voilà pourquoi nous l'avons annoncé hier soir, le premier remède au découragement, c'est de changer la direction de notre regard. Changer la direction de notre regard. Je pense à ce moussaillon qui grimpe pour la première fois au sommet d'un mât. Et son supérieur, là, sur le pont, l'observe, il sait qu'il n'a jamais fait l'expérience. Et subitement, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe mal là-haut. Et il remarque que le moussaillon regarde partout en dessous de lui. Alors subitement, il s'écrie très fort, « Mais regarde en haut ! Regarde en haut !» Et c'est vrai que c'est parce que nous regardons en bas que nous avons des problèmes, n'est-ce pas ? C'est le problème de l'orgueil. Daniel 4 nous raconte que c'est lorsque le roi Nebuchadnezzar a cessé de regarder de haut en bas qu'il s'est remis à regarder de bas en haut qu'il a retrouvé la raison. Et il lui a fallu 7 ans de démence dans les jardins tellement célèbres de son palais de Babylone. 7 ans. Et au bout de 7 ans, il a levé les yeux vers le ciel. Et la raison lui est revenue. Direction de notre regard. Et ceci se justifie aussi par excellence dans 1 Roi 19. Nous avons remarqué le premier soir que l'épître de Jacques, au chapitre 5, dans les versets 16 et suivants, nous indique qu'une des caractéristiques du prophète Élie, c'était sa vie de prière. Élie est un homme de prière. D'ailleurs, la fin du chapitre 18, c'est le combat de la prière. C'est 7 reprises dans ce combat jusqu'à ce que
La pluie
commence à tomber. Un homme qui prie avec instance. Et que Dieu entend. Et qui sait si Dieu a s'est plu à exaucer les prières d'Élie. Si quelqu'un a eu la preuve que Dieu était capable d'exaucer la prière, c'est bien le prophète Élie. Et pourtant, je dirais quelques heures après avoir vécu l'exaucement de prière peut-être le plus extraordinaire de tout son ministère, devant ce télégramme de Jézabel, la seule chose qu'Élie ne fait pas et qu'il aurait dû faire, c'est de prier. Nous aurions tant aimé pouvoir lire « Élie, voyant cela, se prosterna en présence de l'Éternel. » Parce que c'était là son attitude habituelle. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas prié. Lui qui était un homme de prière, et je pense ici à certains exemples des Écritures qui nous montrent comment certains hommes de Dieu ont réagi lorsqu'ils ont reçu certaines lettres, certains messages, certains télégrammes des Jézabel ou des Akab de leur temps. J'en ai noté deux exemples. Tout d'abord dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, donc un peu avant Job et Psaume, dans Néhémie au chapitre 6, dans ce combat implacable lié à la reconstruction de la muraille de Jérusalem après l'exil, Néhémie chapitre 6, à partir du verset 1er, Néhémie chapitre 6 à partir du verset 1er, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambalat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. » Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambalat m'envoya ce message 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. » « Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces rumeurs arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Voyez la juste attitude. « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Ça, c'était une des caractéristiques, une des constantes de la vie de Néhémie. Cette dépendance permanente qui lui poussait, faisait pousser des cris, soit de joie, soit d'angoisse, de recherche, de force, que Dieu allait lui donner dans les circonstances difficiles. D'ailleurs, ça continue au verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambalat, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Deuxième exemple, dans le prophète Ésaïe, donc au-delà des psaumes, Ésaïe chapitre 37. Ésaïe 37. Verset 8 et suivant, alors que la ville de Jérusalem connaît des heures difficiles, un siège douloureux, il nous est dit au verset 8
que Rabshaké, donc le représentant de l'ennemi, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet d'un roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Karan, Retsef, les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Enna et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Comment réagissons-nous quand nous recevons certaines lettres? Comment réagissons-nous? Voilà deux exemples encourageants. Deux hommes de Dieu qui, dans une circonstance très difficile, se tournent vers le Seigneur pour étaler la lettre, pour étaler le problème, pour présenter le problème au Seigneur. Importance donc de la prière, mais disons-le, importance d'une prière, elle aussi bien centrée. Parce qu'il est des croyants découragés dont nous avons peut-être été, qui prient, qui passent même beaucoup de temps dans la prière. Mais le problème de leur vie de prière, c'est qu'elle ne sert qu'à alimenter leur découragement. C'est un perpétuel apitoiement sur soi-même que l'on présente au Seigneur. C'est ça la lutte contre la puissance des ténèbres. On prie, comme le disait Luther, Satan se met à genoux à nos côtés. J'entendais récemment dans une introduction de réunion le président dire, écoutez, le seul endroit où ça marche bien, c'est quand on prie le Seigneur. Là, on est tranquille. J'ai eu envie de bondir, en dire, mais non, pas du tout. On n'est pas tranquille. Parce qu'au moment où vous vous agenouillez, même dans votre cœur, l'ennemi s'agenouille à vos côtés. Et il peut vous maintenir dans le découragement parce que vous êtes, vous persuadé que le fait de prier, c'est une sorte d'acte magique qui devrait tout arranger. Mais si notre prière est mal dirigée, si elle est mal orientée, prenez dans le livre de Josué, au chapitre 7, après cette victoire merveilleuse de l'Éternel sur la ville de Jéricho, dans cette marche circulaire par la foi pendant une semaine autour de la ville, au chapitre 7. Confrontation avec une autre cité, Haï. C'est intéressant d'ailleurs parce que, en l'occurrence, ça convient très bien vu les problèmes que vont connaître les enfants d'Israël. Et il est donc dit que le combat a lieu, 3000 hommes d'Israël se mettent en marche, verset 4, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Et les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les enfants d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens à nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis?
Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?
L'Éternel dit à Josué, lève-toi.
Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Dit d'une autre manière, Josué, je suis désolé pour toi, mais ta prière est un problème. Ta prière est répréhensible. Parce que si tu voulais bien réfléchir un peu, tu saurais quelle est la solution. Parce que j'ai prévenu. Et le texte le dit, n'est-ce pas, immédiatement en dessous. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont menti, ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Combien de fois sommes-nous tombés dans ce piège? De raconter nos lamentations au Seigneur et d'alimenter notre apitoiement sur nous-mêmes par un acte aussi spirituel qu'est la prière. Et il y a des moments où le Seigneur voudrait nous arrêter dans nos prières de décourager, en disant, mais écoute, ce n'est pas la solution. Tu me l'as dit une fois, ça suffit. Ne me le dis pas, 10 fois. J'essaye de te dire quelque chose, mais tu pries tellement que tu ne m'entends plus. Parce que la prière est aussi dans notre silence. Comment voulez-vous que Dieu nous parle quand nous sommes de si grands bavards? D'ailleurs, pourquoi Israël a été si découragé? Pourquoi cette défaite d'Israël à Haï après la victoire à Jéricho? Tout simplement parce que Josué et les responsables du peuple ont prié à contre-temps. Il y avait une règle dans la conquête d'Israël. Cette règle, c'était qu'entre chaque bataille et chaque journée de bataille même, on rentrait au camp, à Gilgal. Et là, on faisait le point. On priait le Seigneur pour recevoir de lui la stratégie à mettre en œuvre le lendemain. Or, le peuple d'Israël, ses chefs en tête, a été tellement grisé par la victoire à Jéricho, faite sans utiliser les armes, que quand on a évoqué le combat contre la cité d'Aï, eh bien, on n'est pas retourné à Gilgal. On ne s'est pas arrêté dans la présence de Dieu. On ne lui a pas demandé quelle était sa stratégie. On a établi des comparaisons d'une logique humaine splendide. Voilà comment ça s'est passé à Jéricho. Haï est beaucoup plus petite. Nous n'avons pas besoin de mobiliser autant de monde. D'ailleurs, regardez, on n'a même pas utilisé nos armes. 3000 hommes suffisent. On n'a pas prié. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le découragement a été engendré par l'absence de la prière et la confiance en soi-même, alors qu'une nouvelle étape commençait dans cette guerre de conquête du territoire. On n'a pas prié avant, et quand on a prié après, la prière de Josué a d'abord été une prière mal centrée. Et Dieu est intervenu et lui a dit « Maintenant, ça suffit. Ce n'est plus le moment de courber ton visage. Ce n'est plus le moment de t'humilier. Ce n'est plus le moment de te lamenter. Lève-toi. Parce que tu sais où se trouve le problème. Je te l'ai déjà annoncé. » Il nous faut donc prendre le contre-pied de notre tendance égocentrique, y compris même dans notre vie de prière. J'ai relevé dans un bon ouvrage cette parole qui
colle tellement bien avec notre situation actuelle. Une chose est cependant certaine. La Bible ne nous exhorte jamais à l'acceptation de soi, à l'amour de soi, à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, à l'estime de soi, au pardon de soi, ni à aucune des autres formes d'égoïsme si populaires aujourd'hui. La solution de la dépression, ce n'est pas l'acceptation de soi, mais c'est de se détourner de soi pour se tourner vers Jésus-Christ. Et tout notre problème qui nous touche, nous sommes imbibés que nous le voulions ou non aujourd'hui, tout notre problème, c'est que nous baignons en permanence dans cet égocentrisme du monde qui a pénétré dans nos églises. Alors j'aimerais prendre quelques autres exemples avant d'aller plus loin sur cette importance de changer la direction de notre regard. Voyez un texte auquel nous avons fait allusion hier soir, dans 1 Samuel, chapitre 30. Nous avons évoqué ce dérapage du futur roi David dans sa période d'une douzaine d'années, sans doute, de formation à la royauté. Et au chapitre 30, nous voyons devant le chaos de la ville de Tsikla dans laquelle habitaient David et les siens. Devant ce chaos, verset 4 du chapitre 30, il est écrit: David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Kinoam de Jizréel, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Autre traduction: cependant, David puisa des forces dans la pensée du Seigneur son Dieu. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. C'est intéressant ici parce que l'expression se fortifier, puiser des forces, reprendre courage en s'appuyant sur, cette expression est utilisée dans le texte original. Dans 2 Samuel, au chapitre 18, verset 9, pour évoquer les cheveux d'Absalom, fils de David et virtuel parricide, n'est-ce pas, lorsqu'ils se sont pris entrelacés dans les branches d'un térébinthe. Si vous prenez le texte de 2 Samuel 18, verset 9, Absalom se trouva en présence des gens de David, il était monté sur un mulet, le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. C'est le même terme. Alors c'est intéressant parce que c'est très suggestif. Le terme traduit littéralement signifie se lier, s'attacher fermement. Alors j'ai noté dans ma Bible, en rouge, sous ce texte d'1 Samuel 30, David a accroché, a emprisonné ses pensées dans le puissant térébinthe appelé Dieu. C'est comme ça qu'on s'en sort. D'accrocher nos pensées, de les entrelacer, de les entremêler dans ce puissant térébinthe appelé Dieu. Psaume 31, prenons quelques textes, rien de tel que de laisser Dieu parler de manière si directe, en ajoutant éventuellement ici et là quelques commentaires. Psaume 31, verset 10. Psaume 31, verset 10. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. »
J'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Mes os sont rongés. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé ou comme un objet perdu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, qu'ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont en ta main. Vous avez remarqué comment dans un nombre impressionnant de psaumes, David, à un moment donné, bascule, change la direction de son regard. Tout d'abord avec une honnêteté que je lui envie, mes amis, et qui, je l'ai déjà dit avant-hier soir, dérangerait terriblement nos églises locales si quelqu'un osait un dimanche matin pendant le culte prier de cette manière. Et pourtant, c'est le grand roi David qui dit ces choses, mais qui, à un moment donné, change la direction de son regard. « Mais en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées ou mes temps sont en ta main. » Et nous pourrions continuer ainsi. Ceci s'est passé certainement, précisément à l'époque très douloureuse et très troublée de la trahison d'Absalom que nous avons évoquée il y a un instant. Psaume 40, versets 12 à 18. Psaume 40, versets 12 à 18. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté, c'est le plus beau terme concernant le caractère de Dieu dans l'Ancien Testament. Bonté, amour, miséricorde, loyauté, fidélité, un mot d'une richesse insondable, l'équivalent du terme grâce dans le Nouveau Testament. Et qui souligne d'une manière toute particulière cet amour qui ne change pas et qui est de dimension et de durée éternelle. Je t'aime d'un amour éternel. Ta bonté, ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Vous remarquez, ça c'est une des caractéristiques de la vie de prière de David, qui, dans le même psaume, passe de ces moments où il raconte sa douleur, son découragement, sa détresse, son angoisse, son inquiétude au Seigneur. Et puis, il prend la décision de changer son regard. Il regarde dans une autre direction. Il exalte le Seigneur. Et puis, il est ramené vers son problème. Alors, il se remet à parler de son problème. Et puis, à nouveau, il s'arrache en quelque sorte au marécage du découragement en exaltant une fois de plus le Seigneur. Prenons encore un autre passage dans le psaume 86. Psaume 86, 86 pour être de votre bord avec joie. Versets 14 et suivants. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi.
Une troupe d'hommes violents veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est le même terme, hein? Rendu ici par bonté, dans d'autres passages par bienveillance, dans d'autres par grâce, dans d'autres par miséricorde, dans d'autres par fidélité, dans d'autres encore par loyauté. Quel terme riche, hein? Il est présent près d'une une bonne centaine de fois, simplement dans les psaumes. Toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oh, tourne vers moi les regards et pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Psaume 142. Un seul verset, psaume 142, verset 4. Psaume 142, verset 4. Nous allons prendre dès le verset premier. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. C'est que dans ma situation, toi, tu connais mon sentier. Il me semble qu'ici, une remarque s'impose. Je la tirerai du psaume 129 pour prendre un exemple, il y en a d'autres. Du psaume 129, dans les quatre premiers versets. Psaume 129. Il monte assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Il monte assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Et j'aimerais souligner ici la présence de cette exclamation. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ce que vous trouverez ailleurs dans les psaumes. Qu'Israël le dise. C'est important. Parce que une des raisons pour lesquelles il nous arrive de tant peiner à sortir de découragement, de nos découragements, c'est que nous pensons ne pas avoir le droit de dire à Dieu ce que nous pensons. Combien de disciples de Jésus-Christ ont abouti dans des cabinets de psychiatres, y compris ici en Suisse romande, parce qu'on leur avait laissé croire qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire à Dieu. Il pourrait, pardon de le dire, faire un infarctus. Qu'Israël le dise. Nous verrons demain matin. Moi, ce qui me frappe dans les Écritures, c'est que les hommes et les femmes de Dieu dans les Écritures disent parfois des choses à Dieu. Vous savez, Job, il n'a pas ménagé Dieu. Hein. Il n'a jamais renié Dieu. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais les amis. Mais David, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Dieu par moment? Eh bien, le psalmiste affirme qu'Israël le dise. Il faut dire à Dieu. Mes amis, dites plutôt à Dieu que de décrocher votre téléphone pour le vomir à un membre de l'Église. Dites à Dieu. On peut tout lire. J'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre. Parce que moi aussi, j'avais des scrupules. Et quand j'ai commencé dans ma vie à dire à Dieu la vérité, je rentrais ma tête dans les épaules de peur que la foudre tombe. Qu'Israël le dise. Je dis mon indignation. Je dis, Seigneur, pas d'accord. Quitte à ce que plus tard, je dis, écoute, Seigneur, pardon, je suis allé un peu loin, mais je suis frappé par quelle écoute
de la part de Dieu à notre égard. Dieu ne ferme pas son oreille quand nous lui disons. Nous nous fermons notre oreille aux autres quand il commence à nous parler sur ce ton-là. Nous nous disons aux autres, dis à qui tu t'adresses. Hein? Dieu pas. On le verra demain. Vous avez vu les reproches dans le chapitre 19 ? Comment l'Éternel a tiré les oreilles au prophète Élie ? Bon. Qu'Israël le dise, il est normal et bon d'exprimer devant Dieu nos réactions d'indignation, d'impuissance, de révolte, tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas nous arrêter là. Le problème, c'est quand on s'arrête là. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord. Non, je m'en vais. Puis on tourne le dos au Seigneur, n'est-ce pas ? Non, ces hommes de Dieu dans les Écritures, ils ont dit, puis sont allés plus loin. Verset 4, l'Éternel est juste. Je viens de vivre des choses parfaitement injustes. Seigneur, ce n'est pas toi que je vais accuser. Toi, tu es juste. C'est pas réglé. Mais un jour, tu vas montrer ta justice. Changer la direction de notre regard. Je pense à ce marchand de chaussures envoyé par sa firme dans une région reculée d'un pays. Et lorsqu'il arrive dans le pays, il est consterné parce qu'il découvre subitement que tout le monde marche nu-pied. Alors il télégraphie à sa firme, à sa compagnie, le message suivant: « Aucune perspective de vente, les gens ne portent pas de souliers ici. » Alors, on le rapatrie, on envoie un autre agent et lui envoie immédiatement un message à sa firme. Mes amis, ça promet énormément. Les gens ne portent pas de souliers ici. J'ai du boulot. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si la direction de notre regard est importante, la qualité de notre regard est importante. Non seulement la direction, mais aussi la qualité de notre regard. Et c'est tout un apprentissage de la vie dans un monde tellement morose, dans un monde tellement revendicateur, tellement mécontent, où nous sommes tentés de nous plaindre du matin au soir, où nous sommes devenus tellement exigeants, n'est-ce pas ? C'est une grâce que celle qui consiste à apprendre à développer de saines réactions dans nos difficultés. Je pense à cet homme qui avait loué un pavillon qui était pourvu d'une grande cave, bien aérée, bien éclairée. Il y avait une jolie petite rivière qui passait tout près avec des arbres magnifiques qui entouraient la maison. Et pendant 5 ans, cet homme avait joui des nombreux avantages de l'endroit, il avait payé joyeusement un modeste loyer. Il se baignait dans la rivière, il pêchait dans les bassins, il se reposait à l'ombre des arbres, il était heureux. Puis un jour, la rivière a débordé, la cave a été inondée, et la douzaine de poulets qu'il élevait a été noyée. Et d'un instant à l'autre, il a oublié absolument toutes les bénédictions que sa maison lui avait procurées. Il était dans une tristesse incroyable et il se rendit chez le propriétaire. « Je viens vous annoncer que je vais déménager. » Alors le propriétaire est quand même un peu surpris. Il lui dit « Mais écoutez, pourquoi vous paraissiez si heureux dans ma maison ces dernières années ?»« Ah oui, effectivement, j'étais heureux, mais maintenant c'est différent. » La rivière déborde et tous mes poulets sont noyés.
Et le propriétaire de lui répondre, « Mais écoutez, monsieur, la prochaine fois, pourquoi n'essayeriez-vous pas d'élever des canards ?»
Nous avons parlé de Spurgeon. Nous avons parlé de sa tendance à la dépression et du beau ministère que Dieu lui a donné. Et Spurgeon, avec son style très particulier et coloré, décrire ceci, si une porte se trouve fermée, Dieu en ouvrira une autre. Si la récolte de pois n'a pas été bonne, peut-être les haricots réussiront-ils mieux. Si une poule a délaissé ses œufs, une autre fera éclore sa couvée entière. Si profond que soit le flot submergeant du malheur, la foi trouve toujours un coin sec pour se poser, et si elle n'en trouvait pas, elle apprendrait à nager. Et quand on connaît la vie de Spurgeon, non seulement ses problèmes de santé, mais les crises spirituelles dans son propre groupement d'églises, qui peu à peu quitta les sentiers d'une fidélité aux Écritures pour s'ouvrir déjà à cette époque à toutes sortes de courants de grande ouverture et d'unité, déjà à son époque, n'est-ce pas? Il a vécu des moments terribles. Il savait ce qu'il disait lorsqu'il affirmait de telles choses. Je pense aussi à cette carte très intéressante que l'on peut voir au British Museum de Londres, une très vieille carte tracée en 1525 et qui représente le littoral de l'Amérique du Nord. Et le cartographe a laissé des notes fascinantes sur des régions de la carte représentant des endroits encore inexplorés. Alors on peut lire... Il y a ici des géants, il y a ici des scorpions brûlants, il y a ici des dragons. Et puis un jour, cette fameuse carte est passée entre les mains de Sir John Franklin, un explorateur britannique du début du 19e siècle. Et la première chose qu'il fit fut de barrer ces effrayantes inscriptions et d'écrire ces mots sur toute la largeur de la carte. Dieu est ici. Dieu est ici. Changer la qualité de notre regard, développer de saines réactions dans nos difficultés, apprendre à vivre dans la reconnaissance, apprendre à vivre, c'est vrai, dans la louange, apprendre à vivre dans l'action de grâce. J'ai retenu les circonstances de composition de l'œuvre majeure de ce grand compositeur qui est un de mes préférés, Handel. Handel qui, très tôt dans sa vie, écrivait déjà des cantates à l'âge de 9 ans. Quelques années plus tard, on lui demanda même de jouer devant le roi de Prusse. Et puis, avec le temps, les événements prirent un tournant de plus en plus douloureux. Son père mourut, sa musique ne se vendit plus. Il finit par faire banqueroute. Il était presque désespéré. Quand il s'enferma dans sa chambre, et en 24 jours, écrivit ce célèbre oratorio, le Messie. 24 jours. Et pendant cette période, il fut si ravi par les Écritures qu'il s'exclama par la suite, « Je voyais le ciel ouvert et le grand Dieu lui-même assis sur son trône. » Et il expliquera que ce sont les chapitres 7 et 19 de l'Apocalypse qu'il avait tout particulièrement touché. On comprend pourquoi ce chef-d'œuvre a tellement marqué toute l'histoire et la vie d'un certain nombre de croyants.
vivre dans la reconnaissance et dans la louange. Et vous savez que quand on utilise le terme louange, ça fait partie de ces mots chaise électrique. Hein. Parce que la louange est à la mode. On ne sait plus quoi inventer aujourd'hui en matière de louange. Alors j'aimerais simplement tout d'abord faire remarquer que les Juifs ont donné à l'ensemble du psautier, c'est-à-dire les 150 psaumes que nous avons dans l'Ancien Testament, le titre « Louange ». Les 150. Il y a à l'intérieur de ce psautier des psaumes qui ont une note particulière de louange, le grand Hallel, le petit Hallel, etc. Mais je suis bouleversé de savoir que les 150 psaumes s'appellent louange. Et je l'ai dit déjà avant-hier soir, nous avons une conception de la louange qui est réductrice. Job, d'une certaine manière, a loué le Seigneur tout au long de cette lutte qui nous est rapportée dans son livre. C'était une louange au Seigneur que de ne pas le renier, mais de continuer à se battre et à interpeller ce Dieu. Ça voulait dire que ce Dieu, il le considérait comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec lequel il fallait parler, il fallait échanger, il valait la peine de s'indigner, de s'adresser à lui, de partager avec lui tout ce qui était sur son cœur. Ça peut changer notre conception de la louange. Que de dire que dans le fond, quand vraiment de tout mon cœur, je dis à Dieu dans les larmes, mes angoisses, mes découragements, mes questions, mes indignations, eh bien d'une certaine manière, je le loue. Parce que je considère qu'il occupe une place de choix. Il compte dans ma vie. Sinon, je ne m'adresserai pas à lui. C'est aussi une manière de lui rendre hommage que de tout, absolument tout, partager avec lui. Alors ne réduisons pas la louange à certaines formes stéréotypées, n'est-ce pas, que l'on apprend de telle ou telle manière, comme s'il y avait toutes sortes de méthodes. Non. La louange, a écrit quelqu'un, n'est pas une drogue divine dont le but serait de calmer les souffrances de la vie. C'est parce que nous connaissons Dieu que même au milieu des blessures de l'existence, nous sommes malgré tout capables de le louer. Et je pense à l'excellent article d'un des proches voisins de la région, Jacques Dubois, qui écrit ceci: « Si nous devions renoncer à la louange, nous devrions commencer par mutiler nos Bibles en enlevant un grand nombre de pages, ce qu'assurément personne parmi nous ne fera. Il faut donc que nous continuions à louer le Seigneur. Elle reste une joie, une force, mais à une condition pourtant. » C'est que cette louange ne se fasse pas envahissante, investie à elle seule de toutes les vertus, sorte de louange enzyme glouton. Alors, elle serait incantatoire. Et l'étant, elle deviendrait païenne. La louange peut devenir un cache-misère, un cache-péché. Nous devons veiller à ne pas louer le Seigneur là où nous devrions lui demander pardon. Mais ceci dit que notre réaction contre les extrémismes en la matière
ne soit pas extrême, au point de nous bloquer dans notre propre vie de reconnaissance et de louange. Apprendre à louer parce que je connais Dieu. Et mes amis, si nous apprenons à le louer quand ça va bien, ça va beaucoup nous aider à le louer quand ça ira mal. Pourquoi sommes-nous désarçonnés dans le domaine de la louange quand ça va mal? Mais c'est parce que nous ne nous sommes pas exercés à louer le Seigneur quand ça allait bien. Et ceci est valable dans tous les domaines. Pourquoi avons-nous parfois aussi, c'est vrai, tant de peine à prier dans certaines situations de difficulté? Parce que ça existe aussi, hein. Parce que nous n'avons pas pris l'habitude de prier quand ça allait bien. Alors là aussi, nous pourrions prendre tant d'exemples. Je pense à l'histoire de ce prédicateur connu qui passait par une dépression nerveuse. Et alors qu'il traversait une période d'extrême angoisse, un ami lui dit, mais tu sais, il y a quand même une solution dans ta vie. Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que, par exemple, tu penses à tous ceux qui, au cours des années, ont été une bénédiction particulière dans ta vie? Est-ce que tu penses à eux? Est-ce que tu as déjà remercié l'un d'entre eux? Et le prédicateur découragé de dire, mais je ne me souviens pas avoir envoyé une lettre de remerciement à quelqu'un qui avait été vraiment une bénédiction pour moi. Eh bien, fais-le. Et le prédicateur suivit ce conseil. Il sut que sa première lettre avait grandement encouragé celui qu'elle avait reçu. Il fit la liste de tous ceux qui l'avaient aidé. Il n'avait pas encore écrit à tous ces gens, tenez-vous bien, qu'il avait déjà envoyé 500 lettres. Et pendant qu'il comptait ses bienfaits, le nuage de l'abattement commença à se dissiper. Se rendant compte que son Sauveur l'avait encouragé par toutes ces personnes, il tourna ses pensées vers le ciel. Il se mit bientôt à bénir Dieu chaque jour pour sa bonté et son amour. Je pense à un homme de Dieu, théologien érudit du passé, qui fut un jour attaqué par des bandits qui lui enlevèrent sa bourse. Et on retrouva dans un de ses calepins la note suivante: je suis reconnaissant, 1, de ne pas avoir été volé plus tôt, 2, de ce qu'ils m'ont pris la bourse mais pas la vie, 3, bien que ce fût toute ma fortune, ce n'était pas grand-chose, 4, je suis reconnaissant d'être le volé et pas le voleur. Et je dois dire que lorsque notre voiture nous a été volée il y a un peu moins de 2 ans, juste avant une série de réunions dans le sud de la France, c'est une des premières choses que le Seigneur m'a rappelées. Souviens-toi de ce serviteur de Dieu et de la manière dont il avait réagi. Je pense à ce prédicateur écossais du siècle dernier, aveugle, auteur célèbre aussi, qui fit un jour cette prière: je t'ai rendu grâce des milliers de fois pour mes roses, mais jamais pour mon épine. Enseigne-moi la gloire de ma croix. Enseigne-moi la valeur de mon épine. Montre-moi que je me suis rendu à toi par le sentier de la douleur. Montre-moi que mes larmes ont engendré un arc-en-ciel. Je pense à ce croyant travaillant dans une mission de sauvetage à Chicago et qui, systématiquement, pratiquement dans tous les services religieux, se levait pour rendre grâce à Dieu. Un soir, il portait un bandage autour du pouce parce qu'il avait frappé son pouce avec un marteau. Et toutefois, on l'entendait dire « Loué soit Dieu, car j'ai toujours mon pouce !» Une autre fois, cet ouvrier parle du jour où cet homme, donc un serviteur de Dieu, parle du jour où cet homme rentre de chez lui, après avoir acheté un petit steak au supermarché, il dépose momentanément son sac par terre pendant qu'il rattache un lacet de soulier. Et voilà que le chien, un chien qui passe par là, s'empare de son dîner. Et l'homme de dire « Mais loué soit Dieu, car j'ai toujours mon appétit !» Un pasteur écossais était connu pour ses prières édifiantes et sa reconnaissance. Et un dimanche matin, la température était tellement morne, froide dans l'église, que un membre de l'église pensait en lui-même, « Oh, le pasteur aujourd'hui ne pourra certainement pas louer le Seigneur en un jour aussi minable que ce jour-ci. » Et à son grand étonnement, le pasteur commença à prier dans les termes suivants, « Nous te louons, ô notre Dieu !» Qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Ce sont quelques exemples. Mais c'est ce dont nous avons besoin. Un homme de Dieu que je connais bien d'ailleurs a écrit ceci. Il y a deux sortes de chrétiens. Les chrétiens bénissants et les chrétiens gémissants. Les chrétiens bénissants, les chrétiens gémissants. J'aimerais prendre encore deux passages pour conclure, parce qu'ils vont mettre en lumière d'autres aspects. Le premier, dans le livre de Jérémie, déjà évoqué, dans Jérémie, et plutôt dans le livre des Lamentations de Jérémie, qui suivent immédiatement, livre des Lamentations de Jérémie. Un livre bouleversant que je viens de relire particulièrement en vue de cette soirée. Oh, quelle intensité douloureuse, dramatique. Imaginons la situation de ce prophète qui a derrière lui 40 ans de ministère prophétique. 40 ans pendant lesquels il n'a cessé, avec passion, avec amour, avec un courage incroyable, lui qui au départ était tellement timide, hypersensible, il n'a cessé d'avertir le peuple de la part de Dieu. Lui disant, mais si seulement tu voulais écouter la voix de l'Éternel, pourquoi est-ce que tu ne veux pas écouter ? Lui annonçant ce qui allait arriver, ce chaos que Dieu allait permettre dans la destruction du temple et la déportation à Babylone. 40 ans durant. Et maintenant, au début de ce livre des Lamentations, imaginez Jérémie dans les rues de la capitale. Imaginez-le au milieu des cadavres, face parfois des rivières de sang, des odeurs de chair putréfiée, un temple démoli, une ville complètement ruinée, des milliers et des milliers de personnes réduites à néant. Un peuple tellement important en cours de déportation. Mes amis, pour ceux qui parlent tellement du succès dans le ministère, après 40 ans d'avertissement, de larmes et de souffrance, et là il ouvre son cœur. Hein. Et ce qui est intéressant, je le signale au passage, c'est que Les chapitres 50 à 52 du livre de Jérémie sont consacrés à la chute de Babylone, c'est-à-dire la chute de l'oppresseur qui a jugé Jérusalem de la part de Dieu et déporté le peuple dans son pays. Dans Jérémie 50 à 52, vous avez au moins 75 mentions de Babylone, auxquelles il faut ajouter 16 fois la Chaldée, la région babylonienne. Donc, au moins 90 fois, il est question, dans ces derniers chapitres, essentiellement 50 et 51, de Babylone, 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 Babylone. Or, dans les lamentations de Jérémie, il n'est pas une seule fois question de Babylone. C'est un mot que Jérémie se refuse de prononcer. Il pourrait dire, mais Babylone est coupable, Babylone ceci, Babylone cela, voilà ce que Babylone a fait. Non, pas du tout. Et comme nous allons le voir, il y a une densité de termes extrêmement élevés qui sont tous dirigés vers l'Éternel, vers le Seigneur. Alors, prenons simplement quelques passages. Chapitre 2, verset 7 et suivant. Chapitre 2, verset 7 et suivant. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans les maisons de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations, il n'a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À qui te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi? Quelle consolation te donner, vierge fille de Sion? Etc, etc. Nous pourrions continuer ainsi au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1er. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Et ce « il », c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu est présent 24 fois dans les 18 premiers versets du chapitre 3. 24 fois, Dieu est mentionné comme celui qui a agi à cause du péché de Jérusalem et d'Israël. Et nous aurions pu faire des comptabilités du même genre. Dans le chapitre 2, dans les versets 1 à 9, il est dit 30 fois, en 9 versets, que c'est Dieu qui a jugé. 30 fois. Pas question de Babylone. Dieu se cache derrière cette situation absolument horrible. Je reprends au chapitre 3, verset 2. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, Éternel, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. C'est ce qu'on appelle un échange de pensées. Échanger ses pensées. Pratiquer la discipline de nos pensées. Changer la direction de notre regard, changer la qualité de notre regard et pratiquer la discipline de nos pensées. Dans la version du rabbinat français de ce texte, Tzadok Khan écrit ceci. « Rappelle-toi ma misère et mon abandon. » Verset 19. « Je ne connais que poison et absinthe. En évoquant ces souvenirs, mon âme s'affaisse en moi. Mais voici la pensée qui s'éveille en moi. C'est pourquoi j'espère. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas taries et que sa miséricorde n'est pas épuisée. » Jérémie discipline ses pensées. Il cultive celle qui glorifie le Seigneur, en particulier au lieu de ressasser ses problèmes. Apprendre à discipliner mes pensées. Regardez le psaume 42. Psaume 42, nous allons terminer deux ou trois passages encore tellement forts. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude. En fait, voyez, je me rappelle. Ça, c'est le problème de nos découragements. Dans nos découragements, nous sommes souvent tentés de ressasser le passé. Et là, il va y avoir une nouvelle orientation. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Il retourne dans le passé. Hein. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse où est ton Dieu. Vous voyez, il repart, vous avez vu ce va-et-vient, il repart dans le passé et il arrive un moment où il se ressaisit. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, attends-toi à Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Voyez-vous, trop souvent, nous écoutons au lieu de nous parler. Vous avez remarqué comment cet homme de Dieu s'adresse à son âme. Il ne laisse pas son âme lui parler. Il prend les devants, il parle à son âme. M'adresser à mon âme. Pourquoi ? Espère. Ce qui veut dire que il importe que, par exemple, nous nous refusions à parler tout le temps de nos malheurs. Pratiquer la discipline de mes pensées. De quelle sorte de pensée le jardin de mon être intérieur est-il ensemencé ? Cela veut dire supprimer ce qui rappelle de mauvais souvenirs. Je pense à cette femme dans l'église où nous étions responsables en Bretagne, qui était toujours en bas. Oh, elle avait été éprouvée. Son mari s'était pendu. Nous avons essayé de l'aider. Elle était ouverte à l'évangile. Mais j'essayais de comprendre pourquoi elle continuait à être toujours tirée en bas, jusqu'au jour où j'ai découvert que dans un de ses tiroirs, elle gardait un morceau de la corde avec laquelle son mari s'était pendu. Je dis, mais si vous alimentez votre mémoire, vous ne pouvez pas redresser la situation. Mais nous pouvons le faire, vous et moi, dans le domaine de l'être que nous gardons et que nous relisons. Accepter de supprimer ce qui rappelle de mauvais souvenirs. À cause de Philippiens 4, n'est-ce pas ? Vous connaissez ce beau texte, versets 8 et 9, au reste. Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Faut-il dire ici ce soir combien la télévision est souvent destructrice dans le monde de la pensée? Combien l'éducation de la pensée est remise en question par la manière dont nous alimentons notre pensée, soit au niveau de la télévision, soit au niveau de nos lectures. De quelle lecture ensemençons-nous le jardin de la mémoire de nos pensées? Tout cela joue sur nos états de découragement. Et un dernier texte, je ne peux pas le manquer, c'est Ésaïe 40. Ésaïe 40. Nous sommes allés simplement ce soir chercher dans les Écritures. Il y a tant de passages sur ce thème. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi, dis-tu, Jacob ? Pourquoi, dis-tu, Israël, ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et je me souviens du jour où j'ai appris que le verbe utilisé au verset 31 est traduit généralement par « renouveler », littéralement signifie « échanger ». Ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Et combien de fois il m'est arrivé dans des voyages extrêmement difficiles, dans une extrême fatigue, avec un gros programme, de dire « Seigneur, je veux faire un échange avec toi ». Je te donne mes forces, et mes forces, c'est toute ma fatigue. Je te donne. Seigneur, s'il te plaît, on fait l'échange. J'ai besoin de ta force. Et d'avoir vraiment pu expérimenter, parfois même instantanément, ce vivifiement, n'est-ce pas, cette brise bienfaisante qui permettait de reprendre la course. Et vous savez, ce texte que nous avons lu, il est précédé d'une description de la supériorité incontestable de Dieu sur ses œuvres, sur les nations, sur les idoles, sur le monde, sur les grands, sur les étoiles, etc. N'est-ce pas ? Et cela me permet simplement de dire que nous préparons ainsi notre dernière étude de demain matin. La vision que nous avons de la personne de Dieu. C'est de la vision que nous avons de la personne de Dieu que dépend notre victoire ou notre défaite dans nos découragements.